Alors nous avons le plaisir de participer aujourd'hui à la présentation d'un livre que nous lisons et relisons, ce que je disais à l'auteur l'autre jour, depuis sa récente publication. Ce livre, vous le connaissez, c'est « Quelle politique pour la folie ?» Le suspense de Freud. Pas rien de mettre ça. De Guy Dana. Alors l'auteur, vous le savez, depuis 1991, chef de service d'un secteur de psychiatrie générale dans les environs de Paris. Il est psychiatre et psychanalyste de tendance lacanienne. Il vient souvent dans notre région et nous avons souvent le plaisir de l'entendre dans nos réunions bordelaises et encore récemment dans une réunion organisée le 26 juin à Bordeaux par Jean Broustra et le Cercle Freudien, notre groupe bordelais de Trait, dont la secrétaire est également ici. Et Guy Dana a intitulé son intervention ce jour-là « Alexandrie ou l'autre scène ». Alors, né à Alexandrie, je ne me trompe pas, c'est bien né à Alexandrie, c'est ça, bon. Ouais. Ayant vécu son enfance, Guy Dana intitule de même le chapitre 6 de la seconde partie de l'ouvrage dont il va nous parler. Alexandrie, lieu de cultures diverses, cosmopolites, est évoqué en contrepoint de ce que réaffirme l'auteur dans ce chapitre. Et nous citerons tout de suite ce passage qui est clair et nous fait bien connaître la matrice du livre. Je cite « L'hypothèse initiale aura été de parier sur une pluralité de lieux institutionnels de telle sorte que d'une part le sujet puisse s'y déléguer et que d'autre part l'ensemble fasse œuvre de civilisation au sens freudien. En essayant de penser les choses un peu différemment, je cite toujours, de ce qu'elles furent dans les années 60, ces deux objectifs ne m'ont pas quitté, écrit Guy Dana, l'intention étant principalement d'entamer la compacité de la psychose. » Alors la première partie du livre, le suspense de Freud, est consacrée à l'expérience analytique. Cependant, l'auteur y rappelle à maintes reprises que sa thématique s'ouvre vers les problèmes de la psychose et y entrebâille les portes qui conduisent à la seconde partie, consacré au secteur tel que le conçoit Guy Dana et au travail de ses collaborateurs auprès des psychotiques. Alors, nous rappellerons, Guy Dana, je lui ai dit, n'est pas contre, avec beaucoup de modestie, au regard d'une telle expérience et d'un tel livre, que notre démarche dans notre vie de clinicien a suivi un parcours à bien des égards comparable à celui dont Guy Dana veut bien nous parler. Nous avions, avec le professeur Blanc, Jean Broustra, et de précieux collaborateurs, créé le premier secteur adulte d'Aquitaine. D'emblée, nous avions insisté pour fonder, en lisière du secteur, des institutions extra-hospitalières. À cette époque, c'était l'hôpital de jour, qui existe toujours, le service du soir, les consultations du CMPS, Centre médico-psychologique, service de consultation que jouxtait, ça c'est important par rapport à l'expérience de Dana, je pense, un lieu de rencontre où très librement pouvaient se retrouver les personnes traitées dans le secteur. Hospitalité, hospitalisation, deux termes que Guy Dana reprend dans son dernier chapitre et que nous opposions ou conjuguions déjà. L'autre motif fondamental pour nous débutants, à l'époque où nous avons créé ces institutions extra-hospitalières, était déjà comment articuler chez les psychotiques les possibilités que nous découvrions dans nos propres analyses et la vie du secteur. Et j'insiste ici, on en a parlé avec différentes personnes ici, pour bien dire qu'on ne peut pas parler de l'analyse si on n'a pas fait d'analyse. Enfin, on peut en parler, mais à ce moment-là, ça devient un discours extérieur et qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ce n'est pas à nous ici de compter l'évolution avec déboire, recréation, impression d'un tel ou tel cas de réussite de nos propres réalisations et réflexions, ni la situation actuelle du chapelet de nos institutions. Nous avons ici à introduire un ouvrage remarquable, sur ces mêmes thèmes et à saluer l'ami qui a su parler si élégamment de son, de ses expériences. En ce qui concerne l'expérience analytique, les chapitres qui consacrent Guy Dana sont d'une extraordinaire richesse et d'un style élégant qui déconcerte in fine le lecteur. Déconcerté d'avoir tant appris ou si bien repris sans même avoir l'impression de perdre le fil page après page. Mais au bout de cette lecture première, d'autres lectures sont souhaitées, effectuées par nous. On ne lit pas Freud une seule fois, ni Guy Dana. Le livre devient un précieux compagnon. Les formules où l'on s'arrête sont nombreuses et heureuses. Ainsi, dans le chapitre « L'inconscient et la conquête de l'espace », lisons-nous, et je cite, « En somme, il s'est d'abord agi de recentrer la réalité psychique autour du couple que forment ensemble parole et langage, en traitant le langage comme un cadre, comme le lieu précisément de la réalité psychique, comme un habitat. » Mais l'on ne s'arrête pas vraiment à cette formule. Il fait tout de suite écho, pour qui a le bonheur de feuilleter souvent le livre, dans le chapitre « Quel espace pour la folie ?», nous pouvons lire aussi « C'est pourquoi il faut, pour les psychoses, inventer un cadre, suppléer aux failles de la structure, là où la traversée du langage serait périlleuse autant qu'inefficace. » Et nous entrons ainsi dans la partie pour nous la plus stimulante de l'ouvrage, « Quelle politique pour la folie ?» Alors c'est évidemment un des aspects importants de cet ouvrage. Donc il y a l'analyse personnelle, il y a le cadre institutionnel, le cadre sectoriel, et puis il y a la question de la politique. C'est ce que pour ma part, écrit-il, j'ai essayé de travailler dans ce cadre de fortune qui s'appelle secteur, et dont il ne faut jamais oublier qu'il est une métonymie, c'est très important, une métonymie de l'espace. Par-delà ces lectures et relectures, nous avons la chance de vite laisser la parole à Guy Dana lui-même, en rappelant cependant encore sa formulation de la menace de telle politique. Exigence de rendement et instrumentalisation de nos peurs, évolution tronquée par les normes, culte de la performance et du résultat. Menace qui, d'après l'auteur, pèse actuellement sur le champ social dans son entier et sur la psychiatrie en particulier. Je laisse à Guy Dana soin de reparler de tout cela.
Merci beaucoup. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire sur ce que tu viens de dire. C'est pas trop près ou pas trop près? Bon. L'idée du livre, c'est que d'abord c'est centré sur la psychose, mais l'idée du livre, c'était de mettre en parallèle, en effet, la modernité que nous vivons dans tous les champs, c'est-à-dire dans le champ social, dans son ensemble, avec justement les symptômes de la psychose. Parce que il m'est apparu que sur le plan de l'espace psychique, de l'élaboration, il y avait une parenté, mais comment dire, il faut cette parenté la relier peut-être à ce que dit Lacan de l'interprétation. C'est-à-dire que si une interprétation éteint un symptôme, alors la psychanalyse se signale d'être poétique. Alors effectivement, si on compare la modernité, si on interprète cette modernité comme étant des formes psychotiques, j'espérais en effet agir politiquement et dire à tous ceux, à tout le monde psy, enfin qui m'environne, qui vous environne, que bon, il y a des choses à déconstruire et ne pas recevoir immédiatement ce qui nous est servi. Il faut donc être en effet vigilant, mais partir de la psychanalyse pour arriver aux politiques, et surtout pas l'inverse. Parce que l'inverse, c'est déjà une conception du monde. Bon. Et les analystes, nous ne pouvons pas avoir de conception du monde, mais nous pouvons certainement aboutir à une politique. Ayant fait ce constat que, d'ailleurs, chacun peut faire, que dans la psychose, il suffit d'aller, enfin, si vous avez l'occasion d'aller dans un appartement d'un patient dit psychotique, mais c'est un encombrement qu'on n'imagine pas, c'est un bric-à-brac, une accumulation, il n'y a pas d'espace. Et en effet, il n'y a pas d'espace parce que, en effet, la question de l'objet n'est même pas pensable. Et ce manque d'espace dans la psychose, c'est un manque d'élaboration, c'est-à-dire qu'en fait, ça joue comme un interdit de pensée. Et le but de la psychanalyse, il n'y a pas d'autre but que de lever l'interdit de pensée. Quelle que soit la façon, parce qu'il n'y a pas de cure type, quelle que soit la façon, notre méthode, c'est de libérer la pensée. Et dès lors que cet espace est saturé, eh bien, je me suis dit, en effet, et depuis longtemps, qu'il fallait un espace d'élaboration, il fallait le trouver, il fallait le construire, et ce fut une utilisation particulière du secteur, qui d'ailleurs rejoint, il faut bien dire, ce que font beaucoup d'équipes, et Michel Demangeat, certainement, pratique de la même façon. Mais l'idée, c'était d'arriver à théoriser des pratiques communes, au fond, et d'insister sur le fil de l'après-coup. Parce qu'en fait, d'une structure à l'autre, et je vais vous donner le détail, bien sûr, d'une structure à l'autre, il y a de l'après-coup qui va s'inscrire. Bon, c'est le vœu du travail que nous faisons. Et vous savez que dans la psychose, justement, l'ordonnancement des idées, du passé, de l'histoire, en quelque sorte, d'en constituer une mémoire est la chose la plus difficile, puisque, classiquement, il n'y a pas d'organisation diachronique des choses vécues. C'est un chaos. Le fait d'aller d'une structure à l'autre permet un minimum de structuration, mais surtout permet aussi que se construit un imaginaire qui n'est pas spéculaire. C'est une légende, bon, c'est une histoire qui se raconte, ce dont souvent les patients psychotiques ont manqué. C'est-à-dire qu'on ne les a pas dégagés, justement, du stade du miroir. Ils sont restés dans une forme de dualité, pour certains d'entre eux. Toutes les psychoses ne se ressemblent pas, mais souvent, c'est ça. Et ce qui manque, c'est justement ce commentaire, c'est-à-dire quelque chose qui, finalement, fait légende pour l'enfant. Mais c'est tout bête, c'est des choses souvent anodines, mais qui s'inscrivent pour l'enfant comme le représentant. Et ça, ça a manqué. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer qu'en effet, à travers les choses vécues entre les structures parcourues avec des équipes différentes, avec des rencontres dont on ne sait pas ce qu'elles produisent, eh bien, il y a en effet cette construction d'un imaginaire qui n'est plus spéculaire. Et c'est fondamental parce que la psychose, elle est carente et du point de vue symbolique et du point de vue imaginaire. On l'oublie trop souvent. Et les patients psychotiques sont englués dans le réel. Ils sont comme un gymnaste qui, avec ses deux bras, ne pourrait pas se rétablir. Voilà. Donc, on peut jouer sur le terme de rétablissement. Il n'y arrive pas parce que ces deux bras, du symbolique et de l'imaginaire, ne fonctionnent pas. Donc, à travers la topographie, il y a aussi une topologie qui peut se construire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis des années. Bon, mais avec, bon, on me demande toujours les résultats. Vous savez que la modernité veut des résultats. Elle ne veut pas forcément ce que nous recherchons, c'est-à-dire des effets. Et que l'on dise que les patients psychotiques vont rechuter, parce qu'il n'existe pas de guérison idéale, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce que la guérison idéale fait partie de ces idéaux de la modernité où il n'y a pas de reste. Donc il est guéri, voilà. Et alors, à force de neuroleptiques ou de comportements, je dirais, forcés, bon, contraints. Mais la guérison au sens analytique, ça n'est pas celle-là. C'est une guérison qui, en quelque sorte, est en attente des effets. Et elle n'est pas absolue. Il y aura des rechutes, mais ça, nous le savons. Bon. Mais voilà, j'entendais récemment celui qu'on appelle, celui ou celle, hein, le directeur de l'informatique médicale, le DIM, L'édime aujourd'hui pense justement des choses de cet ordre, c'est-à-dire « Ah, mais ils nous embêtent, ils ont été réhospitalisés combien de fois ?» Voilà, c'est ça. On entend des choses de ce genre, mais c'est abominable, cette histoire-là. Mais oui, ils ont été réhospitalisés, parce que le réel étant quelque chose que le patient ne peut pas affronter, eh ben, il a besoin de nous. Bon. Donc, le fait de recommencer, je le dis aussi dans le livre, plutôt que de répéter, c'est peut-être ça l'enjeu. Voilà. Et à chaque structure traversée, c'est plutôt l'idée de recommencer plutôt que de répéter. C'est-à-dire de remettre les éléments en jeu et de laisser une chance à un inattendu de la reconstruction. C'est comme ça qu'en effet, on peut construire des suppléances. Bon. Et des suppléances, c'est pas toujours dans le style de Joyce et dans le talent, disons, de l'écrivain. Les suppléances, elles sont micro-suppléances et elles sont en effet extrêmement utiles si on arrive à donner au patient sa chance de les construire. Et comment va-t-il en effet arriver à des suppléances ? Eh bien, c'est pour ça que j'essaye de travailler cette culture de l'intervalle. Il y a des structures traversées, mais il y a aussi l'intervalle. Et ce qui m'a induit du côté de l'intervalle est justement d'un savoir, on pourrait presque dire d'un savoir de l'intervalle, c'est que Freud, dans la technique analytique, dit que lorsque vous écoutez un patient et que si vous faites intrusion alors qu'il est en train d'élaborer, vous risquez de créer un effroi indéracinable. Freud a un souci presque de musicien, alors pourtant il n'aimait pas la musique. Lacan non plus d'ailleurs. Et tous les deux, je trouve, moi, que ce sont des. Sans doute la musique, il la joue dans la parole, si vous voulez, dans la parole et dans le langage. Mais, et donc, il y a ce souci de l'intervalle, d'agir avec tact, c'est les mots employés par Freud lui-même. Bon. Eh bien, à partir de là, on peut transposer et faire en sorte que l'intervalle d'une structure à l'autre soit un souci. Voilà, un souci délicat, si vous voulez, de ne pas brusquer les choses. Mais pour ça, il faut du temps. Hein. Et il ne faut pas dire que si quelqu'un revient, c'est la calamité, c'est la rechute, ça va nous coûter de l'argent, voilà, etc., etc. Nous sommes, hélas, dans une rhétorique du chiffre, nous sommes dans une rhétorique du comptage des actes, nous sommes dans un monde bon que nous acceptons, parce qu'après tout, le social le subit tout autant, et peut-être plus que nous. Eh ben, ok. Et puis nous n'aimons pas la plainte. Je crois que l'analyse conduit à ceci qu'il n'y a plus de jouissance de la plainte. Donc il faut faire autrement. Il faut inventer. En fait, il faut arriver à inventer quelque chose. Bon, donc c'est dans l'intervalle que le patient lui invente. Voilà. Et ça, c'est absolument déterminant. Et nous le savons, justement, lorsqu'il revient dans une autre structure et que les choses se disent autrement et que, justement, il y a cette idée de recommencer. Avant de passer la parole à Jean, je veux dire que n'oubliez pas une chose. Freud n'a pas été, disons, blanc-blanc avec la psychose. Il savait que c'était difficile. Tantôt, il a dit qu'il y avait des choses possibles avec la méthode analytique. Tantôt, il a dit le contraire parce qu'il savait que c'est difficile. Et c'est vrai que la méthode analytique n'est pas immédiatement applicable à la psychose. Ni la règle fondamentale, c'est-à-dire « dites ce qui vous vient », qui risque d'entraîner les patients quand même à délirer. Bon. Ni l'analyse du conflit psychique, parce que un patient psychotique n'analysera pas un conflit oedipien, ou quelle que soit d'ailleurs la façon de l'analyser, mais il aura du mal à dénouer les conflits. Et enfin, pour le transfert, vous savez aussi que ce n'est pas un transfert classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette réserve de supposé savoir chez le thérapeute ou l'analyste. On ne lui confère pas cette réserve de qui est le supposé savoir, mais on le suppose sachant. Donc on lui demande des réponses immédiates, de quoi faire. C'est-à-dire qu'on se livre à une forme de soumission. Hein. Bon, donc ce sont des transferts latéraux, ce sont des transferts partiels, ce sont des bribes qui sont ramassées ici ou là, et que l'analyste ou le thérapeute, parce qu'il faut qu'il y ait de l'un, ça ne suffit pas de dire qu'il y a plusieurs structures, il faut qu'il y ait de l'un, c'est indispensable, eh bien, celui-là va pouvoir, bon, retravailler l'ensemble, essayer de réunir les morceaux, et proposer justement, chaque fois qu'il le peut, proposer au patient qu'en fin de compte, il a la solution, il l'a construit de son propre cru. Bon. Et peu à peu, on peut se dire que la méthode analytique, alors même que dans sa crudité, elle n'est pas applicable, eh bien, elle est quand même applicable, et c'est pour ça que j'ai fini par appeler ça la cure sectorielle, parce que d'une structure à l'autre, d'un signifiant institutionnel à l'autre, l'effet sujet se lie dans l'intervalle. De la même façon que pour un patient en analyse, l'effet sujet peut se lire dans ce qu'il dit. Dans le continuum de sa parole, eh ben, on arrive à entendre, puisque l'analyste n'est pas là tellement pour écouter, mais il est là pour entendre, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est pareil pour les patients psychotiques. Il y a quelque chose qui se joue. Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, phrase bien classique de Lacan, mais un lieu institutionnel représente le sujet pour un autre lieu institutionnel. Et nous avons une chaîne langagière qui est de la même eau. Voilà. Donc, en définitive, la méthode analytique inspire, si vous voulez, un travail avec les patients psychotiques. Elle l'inspire par l'intervalle, elle l'inspire par l'après-coup, elle l'inspire par précisément ce travail de construction d'un lieu à l'autre. On va m'arrêter un peu. Voilà.
Tu te situes historiquement de manière importante. Parce que la rencontre de la psychanalyse et de l'institution psychiatrique, je sais bien, ton livre ne consacre pas de page à l'histoire, mais elle est tellement entre les lignes, si je puis dire, que je me permettrai d'en redonner quelques contours. Première époque, la grande époque d'après-guerre, avec les noms importants de ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle, mais il y a aussi donc Toscaïès, à qui je rends hommage, puisque peut-être savez-vous pour beaucoup que Toscaïès a fini sa carrière dans notre région et que nous l'avons très très bien connu, en particulier dans ces dernières années en Aquitaine. Et que, je te l'avais dit, Guy, et je veux le répéter, qu'en 1983, dans l'information psychiatrique, il avait produit un article que j'estime très important, et qui pourquoi est-il important? Il suffit d'en lire la formulation. « Réflexion sur le mouvement désaliéniste de la psychothérapie institutionnelle et des espaces, vous entendez, thérapeutiques saisis dans la perspective psychanalytique ». Et dans cet article, il opposait déjà très fondamentalement, comme tu vas le parfaire aujourd'hui, la différence essentielle à poser entre topographie fixe et topologie entendue comme mouvement dans l'espace, entre écart entre les espaces, comme tu le formules magnifiquement dans ton livre. Donc il faut rendre hommage à ces gens-là. Il y a eu aussi Racamier, il y a eu aussi Pommel, il y a eu aussi le 13e arrondissement. Tu es parisien, tu le sais très bien tout ça. Et puis, il y a la génération plus intermédiaire, dont Michel Demange a rappelé que nous en fûmes, notamment en Aquitaine. Et que cette question, donc, tu la portes aujourd'hui, donc, passé l'an 2000... dans une perspective que j'estime essentielle de transmission. Parce que tout de même, la situation est grave. Tu le dis, tu le répètes, tes engagements, en particulier dans les mouvements actuellement qui luttent pour combattre précisément les méthodologies de comblement, hein, de comblement, qui sont à l'opposé justement du travail sur les espaces et du travail dynamique sur la dynamique du vide, si je puis dire, et de l'écart structurant. Donc tu es politiquement engagé aussi dans ces combats qui, j'espère aussi, entraînent un certain nombre de gens plus jeunes. Parce qu'il faut quand même se soucier de ce qui va venir dans les années à venir. Et la situation est très, très préoccupante. Tu le sais, et ton livre en témoigne. Et donc, il tombe à point, si je puis dire, pour être ce dont on peut se conforter aujourd'hui. Ton livre fait partie des arguments, j'allais dire, de combat actuel pour continuer à défendre une psychiatrie, j'oserais dire au moins psychodynamique, sinon toujours psychanalytique. Il ne faut pas non plus établir des totalitarismes. Tu t'en gardes sans arrêt, et tu as raison. La psychanalyse n'est pas la seule référence de la psychodynamique. N'empêche que elle constitue, par ses expériences et par sa pensée, des avancées tout à fait importantes, et que la vulgarité ambiante voudrait, si je puis dire, envoyer comme étant les choses du passé, les choses qui n'existent plus, les choses réactionnaires presque. C'est tout à fait faux, et il y a là, à la lecture de ton livre, un encouragement précisément à continuer ce qui est un combat, mais ce qui est aussi des histoires de patients. Parce que quand même, moi, à relire ton livre, ayant eu aussi une longue expérience qui ressemble à la tienne, je voyais sans arrêt revenir dans ma mémoire, mémoire qui ne s'éteint pas, puisque je continue, et ça c'est très important, de continuer à écrire et à élaborer ce qu'on a pu rencontrer avec certains patients en particulier, des trajectoires qui nous lient transférentiellement à ces patients, j'allais dire à travers le temps et très loin dans le temps. Et je me disais, c'est ma première interrogation que je vais te poser, pour avoir pratiqué comme toi, qu'il y a évidemment l'institution, alors au sens où tu le dit, c'est-à-dire cette fluidité, ces mouvements possibles d'institutions à autres institutions dans le cadre du secteur, qui fait que les patients s'y déplacent et rencontrent dans ces lieux, dans ces moments institutionnels, ce que Houry appelle des sites d'expression. Moi j'aime bien, tu sais que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de l'expression. Et donc, il y a des moments où les patients, à l'intérieur du dispositif sectoriel, à l'intérieur des dispositions transférentielles assez multiples, nous font vivre des moments de grande expression. C'est-à-dire, ils arrivent à pouvoir créer quelque chose avec leur souffrance, avec leur maladie, avec leur histoire, parfois, ils historisent parfois. Que ce soit dans un site, et ton livre est quand même dominé par cette importance de ce qui advient, de ce qui surprend. Ça, c'est les pages les plus remarquables, où tu t'appuies sur Freud, mais tu t'appuies aussi sur Nietzsche, sur l'intempestif, sur tout cela. Pas oublier que tu as une formation philosophique qui apparaît en quatrième de couverture, et que tu m'as toujours soigneusement caché. Alors, bon, moi je dis que tu as une formation philosophique, et que cette formation philosophique, elle contribue à la qualité de ton écriture, je crois. Et donc, ces moments d'émergence, je les ai en mémoire, et je trouve très, très remarquable que tu t'interroges pour savoir, au fond, dans cette difficulté quand les patients symboliques, oui, il y a des patients symboliques aussi, quand ils sont trop symboliques. Bon, les patients psychotiques à symboliser, et donc tu dis bien, et c'est une interrogation qui court aussi, si on lit Houry, tout ça, et tous ces auteurs-là, la question entre corps et langage. Le corps, qu'est-ce qu'on peut dégager du corps pour symboliser ce que j'appelle, moi, des partitions langagières. Bon. Et comment soutenir avec des patients aussi difficiles de la part des psychiatres, des psychanalystes, mais aussi des infirmiers, mais aussi des infirmières, mais aussi des etc., des équipes soignantes, comme on dit. Comment soutenir ces moments, quand même, qui ne sont pas faciles, qui sont souvent dramatiques. Eh bien, tu t'interroges et tu te demandes qu'est-ce qui peut rendre compte de cette histoire. Et je trouve qu'à un moment, alors dans le chapitre 6, de la, c'est de la, ouais, de la première partie, je ne crois pas me tromper, tu fais intervenir quelque chose qui m'a ravi, au sens d'être transporté. Mais, c'est la question du geste. Tu parles du geste. Et tu fais toute une réflexion sur, qui m'a fait penser d'ailleurs à des choses de Houry sur le transpassible qu'il tient de Maldiné, qui est aussi quelqu'un d'important. Cette question de se situer dans quelque chose qui est entre le langage, entre la formulation langagière et puis une certaine présence du corps. Alors voilà, une certaine présence du corps. Cela ferait geste. Alors moi, j'ai trouvé ça extraordinairement important. Pourquoi ? Parce que il m'a semblé quand même que ce travail institutionnel dont nous parlons, avec les équipes soignantes aussi, où il y a les ateliers, où il y a tout ça, il y a aussi qu'il y a des patients, tu le sais bien, arrivent parfois à faire une demande de psychothérapie individuelle. Alors, comment on appelle ça ? De cure, de psychanalyse avec des psychotiques, s'il s'agit d'un psychanalyste qui accepte leurs demandes, qui les entend, comme tu dis très bien, plutôt que seulement les écouter. Et quelque chose fait que moi, dans ma pratique, et puis bien d'autres, on sait bien que ce n'est pas commode non plus. Et que la question de comment s'y tenir, c'est un terme de Houry, comment s'y tenir, c'est difficile. Et, et me revenait précisément dans le souvenir de thérapie analytique, on ne peut pas dire autrement, avec des psychotiques, que cette question du geste avait peut-être son importance, d'autant plus que tu en viens à poser que cette histoire du geste, ça a à faire aussi avec la scansion. C'est-à-dire ces façons qu'on a de faire qu'une scène peut s'établir d'une certaine façon ou survenir, se développer, puis brusquement, il convient plutôt d'arrêter cette scène. De dire, bon, on se reverra la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Et donc, cette opportunité, cette intuition de la scansion a à faire aussi avec quelque chose, me semble-t-il. Hein, et c'est après plusieurs lectures de ton livre que j'ai cru pouvoir peut-être essayer d'approfondir ça avec toi ce soir. Est-ce que cette question du geste n'est pas quelque chose de très important? Parce que ça, dans la provocation, tu dis cure sectorielle. Bon, cure sectorielle, c'est le travail des équipes soignantes avec des patients dans les secteurs dont on a la responsabilité, puis c'est aussi quand même les patients qui vont faire, pour certains d'entre eux, des démarches individuelles, d'élire un psychothérapeute, analyste. Et que quand même, il me semblait, moi, à partir de mon expérience, que à ces deux niveaux, comment s'y tenir dans l'institution avec l'équipe, et puis comment s'y tenir quand on est amené à être en position de thérapeute individuel. Qu'est-ce qui fait lien ? Est-ce qu'il y a du lien là-dedans ? Voilà la question que je voulais t'envoyer ce soir.
Alors, je suis très content de cette question, parce que c'est effectivement celle que je me suis posée, je ne vais pas insister,
oui.
À propos de ce livre. Parce que dans les expériences que nous avons, le temps qui est possible chez certains de faire vraiment une psychothérapie me paraît extrêmement important. Et je pense que cette question de continuité aussi n'est pas sans écho quand on lit le livre. Voilà, enfin, je laisse la parole à Guy Dana.
Mais
il faut la seule, enfin, il faut partir avec des choses qui sont chez Freud fortes et chez Lacan aussi, c'est que le savoir n'est pas de notre côté. Voilà. Si on veut qu'il y ait un travail analytique avec les patients, c'est voilà, il faut faire en sorte de le faire passer de l'autre côté. C'est eux qui ont le savoir. Mais de ce savoir, il faut qu'ils en fassent une énonciation. Et une énonciation qui soit inscriptible, qui cherche son écriture. Voilà. Et c'est un enjeu qui est difficile, évidemment extrêmement difficile, et que la tentation pour nous de prendre le pouvoir et par le savoir, elle est forte. Alors, je pense que tout ce que j'ai écrit là sur la... D'ailleurs, ça s'appelle le geste et le semblant. N'oublions pas le semblant. Car le semblant, c'est ce dont ne peuvent pas user les patients psychosés. Le semblant, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de tenir, au fond, son propos. C'est de le soutenir. C'est d'arriver à... parce qu'on croit, pour Lacan qui a quand même beaucoup d'humour et qui a inventé ce terme de semblant, c'est, si vous voulez, ce qui tient debout, à peu près. D'un discours qui ne serait pas du semblant, donc pour reprendre la formule d'un des séminaires, ça n'existe pas. Bon, ça veut dire que c'est vous dire la portée de nos propos. Bon. Qui sont donc sans doute aussi accompagnés de quelque chose qui ne peut pas se dire. Et ce qui ne peut pas se dire, qui vient de l'intime, qui vient de l'inconscient en fait, chez les patients psychotiques, justement, il n'y a pas cette réserve de l'intime. Il y a sans doute une, comme dans la modernité, une transparence, ou en tout cas une lucidité, et certainement, disons, un accès immédiat à l'inconscient, des fulgurances dont chaque thérapeute ici qui en a l'expérience le sait. Ils savent bien plus que nous. Mais le problème, c'est que de ce savoir, il faut l'amadouer pour pas qu'ils en souffrent d'en savoir trop. Voyez. Et là, il leur manque le semblant. Et je pense que l'analyste, par le geste, il fait passer le semblant de l'autre côté. Et c'est très difficile, c'est même difficile à exprimer ce que je vous dis. J'essaie de vous le dire de telle sorte que ce soit intelligible. Mais tout le problème, il est là. C'est du geste de l'analyste faire passer le semblant du côté du patient pour qu'il soutienne quelque chose. Bon. Et que le savoir lui revienne. Et si possible, pas un savoir délirant, ni un savoir de certitude, ni un savoir féroce. Mais un savoir dont finalement, qu'il peut oublier. Parce que finalement, quoi ? La meilleure des guérisons, c'est celle-là. Il faut qu'il puisse oublier. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'une structure à l'autre, ben, y a du mouvement, il y a de l'après-coup, il y a de l'oubli. L'oubli, ça fait partie de la guérison. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question.
Est-ce que tu penses que tu le dis dans le livre, mais tu l'as peut-être plus développé des fois dans certains articles ou interventions que je t'ai entendu dire, que finalement le plus important, c'est d'aider les patients psychotiques à avoir un savoir-faire avec leur inconscient.
Mmh. Et oui, bien sûr.
Voilà,
bien sûr, bien
c'est bien ce qui me semble sûr. Que tu dis.
Oui,
mais est-ce que tu penses que, quand même, un psychotique qui fait une démarche d'élire, alors il faut se méfier du terme, hein, mmh. tu le dis bien, parce mmh. que l'idéalisation est immédiatement prête, si je puis dire, à fermer et à obturer ce qui s'ouvre là. Est-ce qu'un patient qui élit, qui choisit, qui se risque à demander une thérapie individuelle à l'un d'entre nous, est-ce qu'il ne dépasse pas quand même un petit peu plus que du savoir-faire avec l'inconscient, si toutefois il arrive à s'inscrire dans le temps d'une thérapie, je veux bien, qui n'est pas qu'une série de fulgurances, comme tu dis très bien. Question quand même, ça.
Oui, mais ça c'est la question, je dirais, de... la fiabilité. Il faut que le patient ait confiance.
Ouais.
Ce qu'on construit ne peut se construire s'il n'y a pas la confiance. Mais la confiance, c'est pas seulement celle que requièrent peut-être les relations entre les individus dans le social. C'est une confiance, justement, qui tient quelque chose d'une tiercité. C'est pas seulement toi et moi. C'est la confiance, c'est qu'il y a une tiercité qui, au fond, est travaillable. Oui, elle n'est ça. Nulle transcendance. Je précise qu'elle n'est nulle transcendance. Il ne travaille avec aucune transcendance. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de l'analyse dans le champ des thérapies. C'est qu'elle ruine toute transcendance. Bon, qu'elle soit politique, religieuse, de savoir, voilà, tout ça, ça tient pas. Non, mais par contre, ce qui peut tenir, c'est cette tiercité qui fait que l'intelligibilité du propos ne tient que parce qu'il y a un relais en l'autre. Donc, finalement, la seule foi de l'analyse, c'est qu'il y ait de l'autre. Grand A.
Question provocante, est-ce qu'on peut se suffire d'une cure sectorielle?
Non, mais si tu veux, la cure sectorielle, c'est une métaphore, mais bon,
c'est
génial, une cure sectorielle. On peut se suffire d'une cure, c'est bien sûr.
Tu
bien
réponds
sûr.
Comme ça.
Oui, bien sûr.
Donc c'est bien ce que je
lorsque dire. Moi j'ai des patients depuis pas, ça fait 10, 20 ans qu'ils tournent, mais je suis très content qu'ils tournent.
Mais alors, dans la cure sectorielle, comment justement articule-t-on les choses? Crée-t-on une certaine continuité? C'est ça qui me vient à l'esprit.
Alors maintenant, il faut que je. Oui, absolument. Michel a raison de me questionner là-dessus. Bon, je dispose, qu'est-ce que j'ai voulu? Donc, dans cette pluralité, il y a évidemment une unité clinique, mais il y a ce qu'on appelle la maison thérapeutique, qui est un lieu vraiment magique, de 4 places, avec une équipe aussi, parce que tout ça, ça tient sur des talents. On n'imagine pas le génie qu'il y a dans les équipes infirmières. Ils font des choses extraordinaires. Bon. Et donc, la maison thérapeutique, c'est 4 places de patients qui vont rester 2-3 mois et qui vont travailler, justement, peut-être, on pourrait dire, le lien social. Bon. Mais j'ai aussi des familles. J'ai 14 familles avec lesquelles je travaille, qui sont d'ailleurs sans aucune formation. Parce que si on les met dans le savoir, c'est ce que je venais de dire, c'est foutu. Mais ce sont des rencontres, qui vont aussi durer 3 à 6 mois. Bon. Donc il y a l'hôpital général, c'est plus classique, et il y a aussi maintenant le centre de crise que j'appelle l'inattendu, et qui est un lieu vraiment intéressant où il y a 11 lits, où on peut faire un passage pas très long, c'est 15 jours, pas plus, mais quand même c'est une pause qui peut être tout à fait intéressante. Il y a des groupes de parole, il y a la possibilité de mettre en perspective, j'en ai pas encore parlé de la perspective, mais c'est quand même essentiel, de mettre en perspective son propos avec d'autres. Alors pourquoi c'est essentiel la mise en perspective? Parce que, comme en peinture, comme au Quattrocento, l'invention de la perspective, c'est l'invention du lien social. C'est vous rentrer dans le tableau. Auparavant, vous étiez en quelque sorte interdit d'entrer. Bon. Et donc, on était dans une dualité quasi paranoïaque. Alors, ça ne veut pas dire quand on lit Daniel Arras, il dit bien qu'il y a eu avant qu'il y ait eu ce moment un peu fondateur, il y avait au fond des perspectives. Plutôt que ne soyons pas trop massifs dans le fait que on invente à ce moment-là. Mais quand même, il se passe quelque chose qui doit d'ailleurs traduire ce qui se passe dans le social. Mais les peintres et les artistes ont toujours de l'avance. Ils ont toujours de l'avance sur la pensée. Ils ne peuvent pas encore formuler ce que d'autres vont penser plus tard. Parce que Descartes, par exemple, tu parlais de la philosophie, il ne pensera la perspective que 2 siècles après. Bon. Donc, la question de la perspective est fondamentale parce qu'elle est très directement liée au lien social. Et cette invitation à rentrer dans le tableau, c'est la même chose qui se joue dans nos structures. C'est une mise en perspective et une invitation à rentrer dans le contenant qu'est ce secteur, dans un contenant à plusieurs lieux. Et quand je dis il y a des groupes de parole, c'est aussi finalement un lieu où la parole de chacun est mise en perspective avec d'autres. Bon, c'est essentiel. Ceci pour répondre partiellement à Michel. Donc c'est là simplement c'est pour dire quelles sont les structures du service. Mais c'est vrai que les équipements vont plutôt vers une paupérisation en ce moment. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir tout cet équipement. C'est rare. Bon, ça n'existe pas. Ou c'est rare, vraiment. Bon, mais quand on a la chance d'avoir, bon, enfin on l'a construit. Hein, eh ben. Ça offre des possibilités de travail qui sont très, très intéressantes, très précieuses. Et j'aime, pour rien au monde, je me départirais de l'une d'entre elles. Tout compte, tout est important. Oui, oui. Il n'y a rien à lâcher, là.
Très bien. Écoute, ton livre est tout à fait... Bon, c'est un livre de référence, je veux dire. C'est pas un livre qu'on prend et qu'on va m'arranger dans un coin. C'est un livre de travail. Il y en a quelques-uns, comme ça, qui nous accompagnent. Donc c'est un livre important, c'est un livre à lire et à relire, absolument. Moi, je m'aperçois qu'à plusieurs lectures, bon, les résonances apparaissent à chaque... C'est extraordinaire.
Moi, je le relis,
Extraordinaire. Alors tu parles de perspectives, elles sont absolument, à mon sens, elles sont ton livre d'une grande potentialité de perspectives. Hein, et pour finir, alors, avant que... On demande aux personnes qui sont là de vouloir parler avec toi. Je voudrais juste citer une phrase de toi, qui sera ma manière de conclure ce soir, parce que ça montre ton talent d'écriture, qui est très grand. Et je trouvais cette phrase vraiment magnifique. C'est avant-hier que je l'ai trouvée, tu vois. Ça vient à mesure qu'on marche et qu'on lit et qu'on relit. Et voilà la phrase, je vous la lance comme ça. Et la phrase, c'est ceci. La poésie jouxte avec ce qui, de la structure, insiste.
Voilà, bravo.
Merci.